Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière donc émission d'Europe Soir. Vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, c'est un grand patron de la grande distribution qui a décidé de se lancer dans son école citoyenne pour faire de la politique autrement, dit-il. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a des choses à dire. Cet invité, c'est Thierry Cotillard, ancien PDG d'Intermarché Netto. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. On reviendra sur cette perquisition au ministère d'Éric Dupond-Moretti. 19h15, la carte blanche de l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt. Et puis, dans le Club des idées, à 19h20, grand débat ce soir sur le nouveau rôle des pères qui a considérablement évolué depuis quelques années, avec aujourd'hui un congé paternité qui passe de 14 jours à 28 jours. Alors à quand l'égalité parfaite entre hommes et femmes? On en parlera très largement jusqu'à 20h avec nos invités. D'abord le journal avec vous Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Franchement, c'est génial. Je pense que c'est vraiment au début qu'on en a besoin, quoi, tous les deux. Quoi. On prend le temps pour être avec elle, pour commencer notre petite vie de famille, quoi.
Et vous le disiez, Julien, davantage de temps pour les papas auprès de leur bébé. Depuis aujourd'hui, la durée du congé paternité passe de 14 à 28 jours pour le plus grand bonheur des intéressés.
Une perquisition au ministère de la Justice dans le cadre d'une enquête visant le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour de possibles conflits d'intérêts.
C'est une grande première. La plateforme de location Airbnb, condamnée à verser 8 millions d'euros à la mairie de Paris. On vous expliquera pourquoi.
Jean-Luc Mélenchon veut mettre l'eau au cœur de sa campagne. L'eau au cœur de sa campagne, car dit-il, c'est le problème numéro un du futur.
Malgré la persistance de zones d'ombre, Willy Bardon, condamné aujourd'hui en appel à 30 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre d'Élodie Kulik.
Le Tour de France, le Britannique Mark Cavendish confirme son retour gagnant. Il remporte la 6e étape. Van der Poel est toujours en jaune.
Et puis on sera à Londres, où une statue de la princesse Diana a été dévoilée aujourd'hui en présence de ses deux fils. Elle aurait eu 60 ans aujourd'hui. La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,71% à 6553 points.
La météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Attention au brouillard demain matin.
Oui, les brouillards, les nuages bas seront très nombreux demain matin. Ils pourront gêner la visibilité, mais bonne nouvelle, ils vont se dissiper très vite. Et demain sera la plus belle journée de la semaine. Il va falloir en profiter. Les températures vont même grimper. Elles seront estivales. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est l'info du jour qui réjouit les futurs papas et les futures mamans aussi d'ailleurs. Depuis aujourd'hui, le congé paternité passe donc à 28 jours contre 14 jusqu'à présent.
Oui, les pères pourront désormais rester près d'un mois auprès de leur bébé et même 7 jours supplémentaires en cas de naissance multiple.
Une avancée saluée par ces nouveaux papas que vous avez rencontrés aujourd'hui dans une maternité toulousaine, Benjamin Péter.
Oui, et devant la maternité Paul de Villiers où je me suis rendu, ce sont des papas ravis que j'ai croisés, notamment Guillaume, sa fille Iliana est née dimanche, mais il va quand même pouvoir bénéficier de ses 28 jours de congé paternité.
Le terme de la grossesse de ma femme était le 16 juillet, mais en fait, il y a eu un déclenchement par anticipation, ce qui fait que je bénéficie de la loi malgré que mon enfant soit né le 27 juin. Si j'avais bénéficié de l'ancien, j'aurais pris ce que j'avais pu prendre, j'aurais peut-être posé des congés en plus ou pas, je sais pas, honnêtement, j'aurais peut-être pas posé. En plus, j'ai un boulot, je suis directeur technique, donc c'est aussi compliqué quand je pars. Franchement, c'est génial, je pense que c'est vraiment au début qu'on en a besoin, quoi, tous les deux. Quoi. On prend le temps pour être avec elle, pour commencer notre petite vie de famille, quoi.
Alors les papas sont heureux, mais les mamans aussi sont soulagées. Géraldine accouche dans quelques semaines et savoir que son mari Benjamin sera à ses côtés le premier mois la rassure beaucoup.
C'est vrai que pour le premier, les trois premières semaines juste après l'accouchement étaient très éprouvantes, tant physiquement que psychologiquement. Donc c'est vrai que la présence du papa, c'est pas du luxe.
C'est être présent pour les moments les plus importants, les moments où le bébé et la maman sont les plus vulnérables. Ça a beaucoup de sens que le papa soit là, c'est normal.
En sachant qu'en plus, on a notre aîné qui a que 16 mois, donc ça va être sport, je pense.
Et si cette période de congé peut être morcelée, la plupart des nouveaux ou futurs papas que j'ai croisés envisagent de prendre ces 28 jours d'une traite pour être le plus présent possible dès les premières semaines.
Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest, Benjamin Péter.
Et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure à partir de 19h15 de ce rôle des nouveaux papas. Une perquisition maintenant au ministère de la Justice, on en parle, ça n'arrive pas tous les jours, c'est exceptionnel, surtout quand elle vise directement le garde des Sceaux.
Une perquisition qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête ouverte pour soupçon de prise illégale d'intérêt contre Éric Dupond-Moretti donc. Alors Justin Morin, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit exactement? Qu'est-ce qui est reproché au ministre de la Justice?
Alors il y a des soupçons de conflit d'intérêt entre son action en tant que garde des Sceaux et ses positions dans certains de ses dossiers lorsqu'il était avocat. Une vingtaine d'enquêteurs de la section de recherche de Paris ont donc investi le ministère de la la justice ce matin pour trouver des éléments concernant en particulier deux dossiers suspects. Le premier, c'est celui dit des fadettes. Quand il a été nommé ministre, Éric Dupond-Moretti a lancé des poursuites administratives contre trois magistrats du parquet national financier. Ce sont ceux qui ont enquêté sur Nicolas Sarkozy, son avocat ainsi que des proches, dont Éric Dupond-Moretti. Ses relevés téléphoniques avaient été épluchés. L'avocat avait dénoncé des méthodes de barbouze pour les syndicats de magistrats. Les enquêtes administratives lancées quand il est devenu garde des Sceaux interrogent. Ils y voient un possible conflit d'intérêts. L'autre dossier, c'est celui du juge Levrault. Dans ce dossier, Éric Dupond-Moretti défendait un policier soupçonné de corruption. À l'époque, il avait été choqué par les méthodes de ce juge d'instruction, qui avait notamment témoigné dans un documentaire télé, à peine nommé ministre. Il a aussi lancé une procédure administrative contre le magistrat. Alors, depuis le début, le garde des Sceaux se veut confiant. Selon son entourage, les procédures ont débuté avant son arrivée au ministère de la Justice. Lui n'aurait fait que suivre l'avis de ses services.
Merci pour ces précisions. Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Le Conseil d'État lance un ultimatum au gouvernement.
Il lui donne 9 mois pour baisser les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030, objectif fixé par l'accord de Paris. La planète se réchauffe, les Canadiens en subissent, vous le savez en ce moment, les effets. On a beaucoup parlé de la canicule qui a déjà fait près de 500 morts. Les chiffres n'arrêtent pas de grimper. Voilà maintenant les incendies. Toute la ville de Lytton, près de Vancouver, en Colombie-Britannique, a dû être évacuée.
L'OMS, préoccupée par l'évolution de la situation sanitaire en Europe.
Et par ce rebond épidémique constaté dans plusieurs pays, nous devons rester disciplinés, dit l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre de cas a augmenté de 10%. L'euro de foot en particulier est dans le collimateur de l'OMS. Inquiétude liée au dernier match, alors que les cas augmentent dans plusieurs villes organisatrices comme Londres, Bakou ou Saint-Pétersbourg.
C'est une grande première à présent dont on vous parle. La plateforme de location Airbnb vient d'être condamnée par le tribunal judiciaire de Paris.
Et elle va devoir verser 8 millions d'euros à la mairie de Paris. C'est la fin d'un bras de fer qui a duré 4 ans, Maud Descamps.
Oui, c'est la première fois qu'un géant du web est condamné à verser une amende à une collectivité. 8 millions d'euros pour ne pas avoir respecté la règle, celle qui oblige les propriétaires parisiens qui veulent louer leur logement à renseigner un numéro d'enregistrement, numéro obtenu auprès de la mairie de Paris. C'est une obligation qui existe depuis 2017. La mairie de Paris avait signalé plus de 1000 annonces illégales. Pour Yann Brossa, adjoint à la mairie de Paris, c'est la fin d'un bras de fer commencé en 2019.
C'est la victoire d'une forme de ténacité de la mairie, et je pense que nous avons eu raison de mener ce combat, qui est un combat qui va dans le sens de l'intérêt général. C'est une entreprise qui était habituée à une forme d'impunité, comme beaucoup de géants du net. Donc c'est aussi un signal envoyé à ces boîtes qui ont l'habitude de vivre dans cette impunité.
Mais l'affaire pourrait ne pas s'arrêter là, puisqu'Airbnb pourrait tout à fait décider de faire appel de cette décision. Contactée par Europe 1, la plateforme n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations.
Maud Descamps du service Écho d'Europe 1.
À moins d'un an de la présidentielle, la liste des candidats s'allonge. L'écologiste Yannick Jadot se lance à son tour dans la course à l'investiture de son parti Europe Écologie Les Verts.
Il retrouvera deux adversaires déjà déclarés, le maire de Grenoble, Éric Piolle, et l'universitaire Sandrine Rousseau. Quant à Anne Hidalgo, elle donnera sa réponse à la rentrée. D'ici là, la maire socialiste de Paris affirme qu'elle va continuer à travailler pour construire une nouvelle offre politique.
Jean-Luc Mélenchon, lui, est candidat depuis un moment déjà, mais il a officiellement lancé sa campagne aujourd'hui.
Oui, une campagne dans laquelle l'eau, et oui, l'eau, Hélène Terzian, tient une place capitale.
Effectivement, et le ton est donné sur son affiche de campagne dévoilée aujourd'hui. On y voit Jean-Luc Mélenchon, le regard au loin, prônant l'Union populaire, avec en fond la maire. Certes, le candidat insoumis est député des Bouches-du-Rhône à Marseille. Il incarne l'ouverture sur la Méditerranée et d'après ses équipes, on peut y voir une politique d'accueil des réfugiés. Mais surtout, c'est bel et bien pour faire de l'eau la thématique phare de sa campagne. Pourquoi l'eau ? Jean-Luc Mélenchon y a répondu déjà lors d'un meeting virtuel organisé en avril dernier et consacré à cette thématique parce qu'elle rend, dit-il, le problème de l'écologie le plus concret. Ce matin, en conférence de presse, le candidat de la France Insoumise persiste et signe.
La question de l'eau est en train de devenir la question centrale de l'humanité. La sécheresse, l'eau, va poser toutes les questions du mode de production dans lequel nous vivons, et donc la question sociale qui va avec. Ça, c'est le premier trait qui sera la caractéristique, l'arête de la campagne que je vais mener.
Au sein de la France insoumise, on martèle que l'eau est en danger, accaparée par des multinationales et qui subit donc la pollution des plastiques, des pesticides. Le cycle de l'eau est perturbé, explique Jean-Luc Mélenchon, qui veut faire de cette ressource menacée un bien commun, éviter le gaspillage. Il milite d'ailleurs pour une gestion uniquement publique de l'eau. La France insoumise a même organisé il y a quelques mois une votation pour faire inscrire dans la Constitution le droit fondamental à l'eau.
Merci Hélène Derzian du service politique d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans quelques secondes, la suite du journal. Après un procès qui n'a pas levé tous les doutes, Willy Bardon, condamné malgré tout en appel à 30 ans de réclusion criminelle.
Et puis à Londres, les retrouvailles aujourd'hui de deux frères autour d'une statue, Harry et William, côte à côte en hommage à leur mère Diana.
A tout de suite. Le verdict au procès dans la suite du journal en appel de Willy Bardon, jugé pour avoir enlevé, séquestré et tué Élodie Kulik en 2002.
Et comme en première instance, la Cour a prononcé une peine de 30 ans de réclusion criminelle, mais avec des charges supérieures cette fois, Lionel Gougelot.
Oui, parce que cette fois, Willy Bardon est condamné pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'Élodie Kulik. Et malgré ses protestations d'innocence, le jury et les magistrats de la cour n'ont pas laissé la moindre place au doute, convaincus que sa voix, reconnue par des proches sur l'enregistrement de l'appel aux pompiers d'Élodie au moment de son agression, cette voix signait sa présence sur les lieux du crime et donc sa participation au viol et au meurtre de la jeune femme, même si aucun élément matériel comme l'ADN ne pouvait l'attester. À l'énoncé du verdict, Willy Bardon est resté prostré, tête baissée dans son box, sans un regard pour sa compagne au premier rang qui s'effondrait en larmes. Le verdict rendu, Jackie Kulik, le papa d'Élodie, pouvait faire part de son soulagement. Il avait juré sur les tombes de sa fille et de son épouse qu'il obtiendrait un jour justice.
J'ai tenu parole. J'avais dit qu'on les aurait. Le résultat me satisfait, même si j'aurais préféré ne jamais être là. Vous comprenez ? Maintenant, ça sera à lui de payer. Parce que les quelques années de détention qu'il fera me ramèneront jamais ma fille. Ça, je ne peux pas l'oublier.
La défense de Willy Bardon annonce qu'elle va se pourvoir en cassation, regrettant que, dans cette affaire, l'émotion l'ait emporté sur le droit.
Lionel Gougelot qui a suivi ce procès pour Europe 1. Au procès 3DEC, cette fois, un enregistrement est venu éclairer un peu aujourd'hui le quadruple meurtre de la famille. Enregistrement qui met en scène les principaux protagonistes de l'affaire. La violence des échanges donne une idée de la tension qui régnait dans cette famille 3 ans avant les crimes.
On prend des nouvelles maintenant du Tour de France.
Europe 1 en direct du Tour de France.
Axel May, c'était la sixième étape cet après-midi entre Tours et Châteauroux. Et la belle histoire continue à s'écrire, hein, Axel, pour le Britannique Mark Cavendish.
Oui, c'est tout un symbole. C'est ici à Châteauroux que Mark Cavendish avait remporté il y a 13 ans la première de ses désormais 32 victoires d'étape sur le Tour de France. À Châteauroux, il fait même un sans faute car après son succès inaugural en 2008, le Tour était revenu en 2011 et la fusée de l'île de Man s'était encore imposée avant de gagner donc pour la troisième fois cet après-midi, à tel point que tout à l'heure au pied du podium, un journaliste de la presse locale demandait à Christian Prudhomme, le directeur du Tour, s'il ne faudrait pas renommer une avenue de Châteauroux du nom de Cavendish. Avant-hier à Fougères, ici même, je vous parlais de la renaissance du Britannique qui sortait de 3 ans compliqués, marqués notamment par une dépression. Ce soir, il est tout simplement revenu à son meilleur niveau avec son maillot vert de meilleur sprinter. Il est désormais à 2 unités du record de victoire d'étape sur le Tour, détenu, excusez du peu, par Eddy Merckx.
Merci Axel. Pardon, mais alors, je pensais qu'on allait entendre quelqu'un,
mais
non.
Moi aussi, je pensais qu'on allait écouter quelqu'un. On dit un mot, Axel, de la spectatrice à la pancarte qui a fait chuter de nombreux coureurs samedi dernier et qui est en garde à vue. L'organisation du Tour a finalement retiré sa plainte.
Oui, son directeur estime que cette affaire est allée trop loin.
C'était le Point Étape. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie.
C'est une femme de 82 ans qui accompagnera Jeff Bezos dans l'espace le 20 juillet. Vous savez, on vous avait parlé de ce voyage. Elle s'appelle Wally Funk et elle sera donc le 4e passager de ce premier vol habité aux côtés du milliardaire, de son frère et du gagnant d'une mise aux enchères dont le nom n'a pas encore été révélé. Elle sera au passage la personne la plus âgée ce jour à voyager dans l'espace.
C'est cool comme nom, Wally Funk. Ouais. Joe Biden en Floride aujourd'hui, une semaine après l'effondrement d'un immeuble près de Miami.
En compagnie de son épouse, ils sont venus tous les deux apporter leur soutien aux familles. Pour l'instant, seuls 18 corps ont été retrouvés. 140 personnes sont toujours portées disparues.
Plus joyeux, direction maintenant la Grande-Bretagne. Et encore que, où Harry et William ont salué ensemble cet après-midi la mémoire de leur mère, la princesse Lady Di, qui aurait eu 60 ans aujourd'hui.
Une statue à son effigie a été dévoilée dans les jardins de Kensington Palace. L'occasion de retrouvailles, surtout pour les deux frères que l'on sait en froid. Retrouvailles très observées, évidemment, par les Britanniques. Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1.
Oui, et la vue de la statue a provoqué des cris de joie parmi ses fans qui suivaient la cérémonie sur leur téléphone. John est aux anges, cet admirateur inconditionnel de Diana vient se recueillir tous les ans à Kensington Palace depuis sa mort.
C'est magnifique, ça lui ressemble beaucoup. Et maintenant, les garçons ont leur mère en statue de bronze qui va rester ici pour l'éternité. Des générations et des générations pourront la voir et on parlera d'elle dans 1000 ans.
La statue représente la princesse accompagnée de 3 enfants. Selon le palais, elle reflète la chaleur, l'élégance et l'énergie de Diana ainsi que l'impact universel qu'elle a eu. Marie est séduite.
Ça reflète son image et sa personnalité à la perfection. Ce n'est pas facile de figer la personnalité de quelqu'un dans une statue. C'est du bon boulot.
Ses fans ont également scruté la gestuelle de William et Harry qui ont dévoilé la statue ensemble. Prola est venue spécialement du nord de l'Angleterre pour l'événement et elle espère qu'ils ressortiront réconciliés de cette cérémonie.
Je pense qu'ils redeviendront amis. S'ils se rappellent leur mère, alors ils vont se souvenir qu'elle voulait qu'ils soient amis. Quand elle était encore en vie, ils lui ont promis de rester proche.
Ses fans attendent avec impatience de découvrir la statue. En vrai, elle sera accessible au public dès demain.
Le reportage donc d'Anaïs Cordoba, notre correspondante à Londres.
Merci Isabelle, vous revenez évidemment tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres. La météo avec Anissa qui nous annonce, j'allais dire du soleil, ben non, le temps sera calme mais il n'y aura pas du soleil partout.
Alors, il n'y aura pas du soleil le matin, effectivement Julien, nous aurons de nombreuses grisailles matinales. Des nuages bas, des brouillards locaux qui pourront par endroits gêner la visibilité, particulièrement dans le nord-est. Et alors le seul endroit où le ciel sera dégagé demain, c'est en Provence, sur la Côte d'Azur, au bord de la Méditerranée. Dans la journée, bonne nouvelle quand même, ces nuages vont se dissiper pour laisser place à quand même de belles éclaircies. Demain sera la plus belle journée de la semaine, hein, notez-le. Sur la moitié nord, quelques petits cumulus pourront lâcher 2-3 gouttes dans l'après-midi. Au bord de la Méditerranée, toujours du beau soleil. Les cumulus lâchent des gouttes. Oui, oui, des petites gouttes comme ça. Ouais. Ouais, ça vous plaît, c'est ça. En fin de journée, le ciel va se voiler. Alors, mauvaise nouvelle, parce qu'effectivement, c'est une parenthèse. Demain, très mauvaise nouvelle, puisque la pluie sera de retour par l'ouest de la Bretagne jusqu'à la Gironde. Le ciel va se couvrir. Les températures, 7 degrés à Charleville-Mézières, 9 à Belfort, 11 à Strasbourg, 14 à Paris et 20 à Perpignan le matin. Au meilleur de la journée, nous aurons 19 à Cherbourg, ça grimpe, 26 à Paris, 29 à Bordeaux, 31 degrés à Marseille et 34 pour Nîmes.
Bien, et tout le week-end, il fait un temps radieux. Pas du tout.
Bien sûr. Non,
merci,
non, les orages reviennent, les orages.
Merci Anissa, oui, oui. Je me souviens qu'hier, vous nous avez mis en garde. Ciré et bottes de circonstance.
Exactement.
Merci à vous, on vous retrouve tout à l'heure également à 18h30.
Europe 1, Julien Bugy.
18h17, vous restez avec nous dans quelques secondes. Un grand patron qui veut révolutionner la manière de faire de la politique. Oui, ça existe. Ce soir, on reçoit Thierry Cotillard, ancien patron d'Intermarché Netto, qui lance donc son école citoyenne. À tout de suite. Et ce soir, notre invité à 18h20, il est l'ancien patron d'Intermarché Netto et a opéré une belle reconversion, créant une école citoyenne dont il vient nous parler ce soir. Bonsoir Thierry Cotillard.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors vous étiez, je le disais, dans la grande distribution et vous vous lancez désormais dans ce grand projet avec d'autres personnalités, on va les mentionner. Vous lancez le Collège Citoyen de France qui vise à former des jeunes à faire de la politique autrement. Alors là, il va falloir nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que faire de la politique autrement.
Alors déjà, on va rappeler que c'est effectivement un collectif, hein, c'est pas une personne, c'est 10 cofondateurs. On s'est dit pendant le confinement qu'il fallait inventer le monde d'après, il fallait pas le subir. Et le constat, vous le connaissez, je pense qu'il y a plein d'émissions sur le sujet, c'est la défiance du citoyen vis-à-vis du politique. Il n'y a qu'à regarder la dernière séquence politique, 3/4 des Français qui s'abstiennent. Donc nous, on s'est dit, on ne va pas répondre à la désillusion par l'inaction. C'est-à-dire qu'on a tous une petite part de responsabilité. Oui. Il y a des citoyens aujourd'hui qui sont engagés, responsables, mais qui s'auto-censurent, qui n'y vont pas. Donc notre projet, c'est simple, c'est de les identifier et surtout de les former pour faire le petit pas pour les amener à peut-être demain être acteurs du monde politique.
Est-ce que cette idée, Thierry Cotillard, est aussi venue des invraisemblances qu'on a vécues pendant cette année et demie de crise sanitaire et de Covid ? On a vu des moments de solidarité absolument formidables, mais aussi ce que l'administration était quand même capable de produire de pire et de plus fou.
C'est évident. Moi, j'étais à la tête de l'enseigne que vous avez citée, Intermarché. On a vu effectivement ce manque de réactivité et ce manque de bon sens. Donc en fait, ce qu'on dit, l'annonce a été faite de l'arrêt ou du toilettage de l'ENA, parce qu'elle est vraiment, à mon avis, pas complètement fermée. Ça, c'est la réponse de l'institutionnel. On croit qu'il y a une réponse qui doit venir du monde civil. Et le bon sens du terrain, il existe. Et donc, l'objectif, c'est d'amener des gens qui savent faire à prendre des responsabilités.
À qui s'adresse cette nouvelle école ?
Alors, on a fait un appel à candidature. On a eu plus de 500 candidats, donc c'est quand même phénoménal pour une première année. Eh bien, écoutez, la première promo, elle va de 19 ans à 53 ans. L'âge moyen, c'est 38 ans.
C'est presque comme Tintin.
Exactement.
7 ans, 77 ans.
Et ça couvre surtout tous les territoires. Ce qu'on ne veut pas, c'est encore une école de Parisiens qui parlerait aux Parisiens. Ouais. C'est une école qui recrute tous les Français pour s'adresser à tous les territoires.
Et qu'est-ce qu'on y apprend dans cette école
alors ? L'objectif, c'est de travailler trois thématiques. Déjà, rappeler peut-être, dire que c'est une école qui est gratuite.
Oui.
Elle est gratuite parce qu'on a des mécènes privés.
Oui.
Et puis, tous les intervenants interviennent gratuitement. Donc,
alors, pour l'instant, c'est que via Internet, que sur le numérique, c'est pas en présentiel ?
Aujourd'hui, c'est en présentiel, puisque ce matin, les 53 élèves de la première promotion sont venus à Paris et on les accueille jusque dimanche midi
avec
des cours et des intervenants politiques de
alors,
très haut niveau.
Qu'est-ce qu'on y apprend ?
Alors, on va y apprendre des fondamentaux, parce que, bien évidemment, il faut apprendre à expliquer ce que sont les institutions en France. On va expliquer comment fonctionne l'État. Et puis, surtout, on veut que les gens soient immergés dans les réalités économiques, sociales et politiques. Et donc, pour ça, on fait venir des intervenants. Premier sujet qu'on a traité à distance, c'était la crise sanitaire. On fait venir le professeur Karine Lacombe. On va parler de solidarité. On va faire venir le DG d'Emmaüs. On va parler d'entreprise. Il y aura des grands patrons qui vont intervenir. Donc, on a des intervenants de haut niveau sur ces thématiques. Et puis, il y aura bien sûr des hauts politiques. Aujourd'hui, ce midi, on a eu la chance d'avoir François Baroin, président de l'Association des maires de France. Et au moment où je vous parle, c'est François Hollande qui est au contact de nos étudiants.
Mais alors là, pardon de cette question, Thierry Cotillard, est-ce qu'on peut apprendre à révolutionner la politique en ayant des rentiers du système d'une certaine manière ?
Alors, c'est là où effectivement votre remarque elle est pertinente, c'est qu'on va être dans un format de proximité où ces gens-là, je ne vais pas vous dire ce qu'ils ont dit, mais ils se confient, c'est-à-dire qu'ils expliquent pourquoi effectivement ils ont pu échouer et comment demain réinventer le modèle pour que ça marche. Et finalement, il y a très peu de personnes qui sont issues de la société civile et qui à 40 ans se lancent en politique parce qu'il y a un trou dans la raquette, il n'y a pas de formation. Donc l'objectif, c'est d'y remédier avec cette école.
Parce que vous pensez que la politique, ça passe forcément par une formation. Est-ce que l'écueil, ça n'est pas de formater justement des hommes et des femmes politiques et de les faire rentrer dans un système si on les forme ?
Alors,
vous comprenez ?
Bien sûr.
On perd en spontanéité, on perd en regard neuf.
Nous, ce qu'on croit, aujourd'hui, en fait, à 20 ans, vous faites un concours, on vous forme, vous faites de la politique et vous faites des choses. Nous, on se dit, à 40 ans, on va identifier ceux qui ont fait, mais c'est obligatoire de les former. Si vous prenez l'exemple de Nicolas Hulot, je pense qu'en fait, si vous l'invitez, enfin, nous, on va l'inviter, en tout cas, dans l'école, il va nous expliquer qu'il n'avait pas les clés. Il n'avait pas les codes, et c'est pour ça que ça n'a pas avancé, il a fini par démissionner. On a Dominique Versini, une des fondatrices du SAMU Social, qui a été ministre sous Chirac et qui nous explique. Elle n'a pas fait de bêtises, elle n'a pas fait de conneries, mais évidemment, si elle avait été formée, ça aurait été plus efficace.
Il y a plein de gens. Il y a l'historien Patrick Boucheron, il y a l'ex-PDG de Danone, Emmanuel Faber, Laurence Parisot, l'ancienne présidente du MEDEF, il y a Mercedes Serra, présidente de BETC, qui est aujourd'hui à la Cité Nationale aussi de l'histoire de l'immigration. Ils ont tous accepté pour venir parler et échanger avec cette promotion. Combien d'années ou de mois d'études ?
Alors, ça va être simplement 9 mois d'études en alternance, puisque ce sont des gens qui sont dans la société civile. Et
ce sont des gens qui bossent.
Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui bossent et ils vont avoir 300 heures de cours avec une partie des heures qui va être consacrée à leur projet.
Et après, vous les invitez à quoi ? À se lancer en politique, aux législatives, aux municipales, aux départementales ?
Alors, on a des élus qui vont viser la députation. Donc, eux, leur projet très concret, ça va être d'être en campagne ou d'être élu pour ces législatives. Et puis, il y a des gens. L'objectif, c'est de leur donner envie d'y aller. Ils ont des associations. On va aider l'association à avoir une couverture plus grande, plus importante, nationale. Et puis peut-être qu'ils franchiront le pas.
Alors, Thierry Cotillard, je voudrais qu'on parle aussi de la France profonde. Pourquoi ? Parce que vous êtes ancien patron du groupe Mousquetaires, que vous avez quitté il y a 6 mois, après plus de 5 ans à la tête du groupe. Ça a été d'ailleurs un succès, salué par les observateurs, avec ce tour de force de faire gagner 1,5 point de part de marché à l'enseigne, mais aussi de réorienter l'offre vers le mieux manger, et cette idée aussi de producteur commerçant. D'ailleurs, il y a peu, il y a un papier du JDD qui titrait ainsi, en faisant votre portrait, « Le magicien des supermarchés ». Vous seriez le magicien des supermarchés. Je dis ça, Thierry Cotillard, parce qu'on dit souvent que les supermarchés très implantés en milieu rural sont un bon baromètre de l'état du pays. Ce sentiment d'une fracture territoriale, toujours pas réglée depuis la crise des Gilets jaunes, est-ce que c'est également ce que vous avez observé ?
Ce qu'on observe et ce qu'on voit venir, c'est cette problématique du pouvoir d'achat.
Vous dites qu'il y a 20% des ménages qui ont du mal à boucler les fins de mois.
Exactement, et qui sont à l'euro près. Donc bien évidemment, nous on a des... Alors déjà, le succès, c'est pas le mien, hein. c'est le succès d'un collectif de 1800 chefs d'entreprise qui ont fait vraiment un super boulot pendant le Covid.
Mais il y a une urgence, une fracture forte dans le
pays.
Oui,
on le sent. En fait, nous, on est à Paris, on a notre vision, et en fait, l'intérêt d'un groupement qui couvre le territoire, c'est quand moi je vois mes collègues et qu'on parle vraiment de la situation, ils n'ont pas tout à fait le même regard que nous, les Parisiens.
Oui.
Et donc, il faut les écouter et voir comment on peut apporter des solutions. Donc, ce collège citoyen, c'est une réponse. Et puis, quant à l'enseigne Intermarché, je fais confiance au président pour vous expliquer tout ce qu'il va faire, le nouveau président, pour le pouvoir d'achat des Français.
Pas le nouveau président de la République, hein, parce qu'on a toujours
encore,
le même pour l'instant,
encore,
jusqu'en 2022. Merci infiniment pour cette belle initiative. Bravo à vous et longue route à cette nouvelle école. On rappelle le nom ?
Collège citoyen de France.
Collège citoyen de France. Merci Thierry Cotillard.
Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, vous restez avec nous dans quelques secondes. Le rappel des titres et le débat des grandes voix. On reviendra sur Éric Dupond-Moretti au cœur d'une affaire judiciaire. A tout de suite. 18h30, le rappel de l'info avec Isabelle Millet.
Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, salue ce soir l'accord fiscal international le plus important depuis un siècle. L'accord conclu tout à l'heure à l'OCDE sur un nouveau système de taxation des multinationales. Aux États-Unis, on parle carrément d'un jour historique. On vous expliquera en détail ce que contient cet accord dans notre journal de 19h. Une perquisition aujourd'hui au ministère de la Justice dans le cadre d'une enquête visant Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux accusé par des magistrats de possibles conflits d'intérêts. Alerte rouge en Tunisie, le pays fait face à une accélération de l'épidémie de Covid. Les autorités ont placé la capitale Tunis en confinement partiel à compter d'aujourd'hui. Puis le Portugal, lui, rétablit un couvre-feu aujourd'hui dans 45 communes. Le pass sanitaire européen est entré en vigueur en Europe. Il doit permettre théoriquement de relancer le tourisme après un an et demi de crise. 4 semaines au lieu de 2, 2 fois plus de jours de congé pour accueillir son enfant. Le congé paternité est doublé à partir d'aujourd'hui. Début d'été animé sur le front social, dans les transports, des préavis de grève à la SNCF et dans les aéroports parisiens. Des mouvements qui toutefois entraînent pour l'instant très très peu de perturbations. Puis la 6e étape du Tour entre Tours et Châteauroux confirme le retour en forme du Britannique Mark Cavendish qui s'impose. Van der Poel conserve le maillot jaune.
Merci ma chère Isabelle. Vous revenez tout à l'heure à 19h pour un point complet sur l'info. Un coup d'œil à la météo avec Anissa. La journée est agréable a priori demain.
Oui, ce sera la plus belle journée de la semaine d'ailleurs demain. Alors elle va commencer avec de nombreux brouillards sur la moitié nord et l'ouest du pays. Soyez prudents, ces brouillards vont très vite se dissiper. La journée de demain sera donc la plus agréable, la plus belle et la plus douce de la semaine avec de nombreuses éclaircies. C'est dans le sud-est, hein, en Provence et sur la Côte d'Azur que vraiment la journée sera la plus estivale. Avec toujours ce vent d'ouest qui souffle sur les côtes varoises et la Corse. Il va falloir en profiter puisque l'accalmie sera de très courte durée. Les orages sont de retour samedi. Les températures, elles augmentent demain. 26 degrés à Paris, 32 pour Albi, 33 à Carcassonne et 34, il va faire très chaud à Nîmes.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Les grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés, Bruno Jeudy, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Bruno Jeudy, le jeudi, bah c'est normal, voilà. Rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. On a dû vous la faire souvent celle-là en plus.
Oui, 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 tout à fait, surtout que...
Bonsoir Stéphane Vernet.
Bonsoir. Alors moi, Stéphane, je vais venir quel jour du coup?
Vous venez quand il fait Vernet, je ne sais pas, directeur de la rédaction, vous m'avez pris de court, d'Ouest France à Paris. Bonsoir Marion Mourgue.
Bonsoir.
On va s'arrêter là sur les jeux de mots avec les noms. Grand reporter au service politique du Figaro, bienvenue à vous. Alors on va d'abord évoquer cette perquisition ensemble ce matin au ministère de la Justice. Situation totalement exceptionnelle, des juges qui perquisitionnent les bureaux du ministre Éric Dupond-Moretti pour une affaire de soupçon de prise illégale d'intérêt. 3 magistrats de la Cour de justice de la République, de quoi fragiliser encore un peu plus le garde des Sceaux après son revers cinglant au régional. Eh ben non, il n'y a pas de son. On va y aller directement avec vous Bruno Jeudy. Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti devient un boulet pour Emmanuel Macron ?
Non, je ne crois pas. Je ne dirais pas que c'est un boulet. Je dirais qu'il a échoué sur les élections, clairement. Ça, c'est vraiment... il s'y est mal pris. Il n'a pas eu le bon ton. Il n'a pas eu les bons arguments. Et il a découvert la politique... en voulant jouer au bulldozer dans le Pas-de-Calais, et ça a complètement échoué. Il aurait dû se rencarder un tout petit peu. Tous ceux qui ont adopté la même méthode au même endroit se sont plantés de la même façon, donc il aurait dû réviser un petit peu avant. Mais bon, c'était un baptême du feu extrêmement compliqué. Je crois que c'est quand même le président de la République qui, lui, s'est carrément trompé en envoyant une armée, une demi-douzaine de ministres peu connu, peu expérimenté dans une élection où il faut être en proximité, connu, au moins dans le coin. Donc voilà, donc tout était réuni pour que ça ne marche pas. Et puis il y a cette affaire, mais cette affaire, on la connaît depuis le début.
Oui.
Donc elle est là, elle est pendante. C'est une difficulté pour le garde des Sceaux, parce que c'est vrai qu'une perquisition à la chancellerie, ça n'arrive pas tous les jours. Pour autant, là, on est en terre connue pour le président comme pour le ministre.
Marion Mourgue, sur cette perquisition d'abord, à la différence de pas mal d'affaires judiciaires de ces derniers mois, on pense évidemment à l'affaire notamment Nicolas Sarkozy, on n'a pas trop entendu de cris d'orfraie dans le débat public aujourd'hui indiquer que c'était démesuré, que c'était une campagne de calomnie, que les juges allaient trop loin et que ce n'était pas des méthodes pour un ministre en exercice.
Peut-être aussi parce que Éric Dupond-Moretti n'a pas que des amis, et notamment dans l'opposition ou même au sein du gouvernement. Et ça revient à la première question que vous posiez, c'est pas forcément un boulet, mais c'est quand même un ministre qui est affaibli aujourd'hui. Il y a eu les élections ratées, il y a cette perquisition, et c'est vrai que depuis son arrivée à la chancellerie, il a des relations compliquées avec les magistrats. Et ça ne permet pas d'avoir un ministre qui soit très audible dans l'opinion publique.
Parce qu'il y a quand même une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Si jamais il y avait une mise en examen, par exemple. C'est possible d'ailleurs une mise en examen ou pas, d'Éric Dupond-Moretti?
Tout est toujours possible, puisqu'à chaque fois qu'on dit que ce n'est pas possible, ça arrive. Ouais. Même si la présidentielle est dans peu de temps et que la justice est assez lente. Donc on verra si ça peut intervenir avant la fin du quinquennat.
Stéphane Vernet, un handicap pour le président de la République, cette nouvelle affaire judiciaire qui quand même prend de l'ampleur. Des juges dans le bureau d'Éric Dupond-Moretti, c'est très exceptionnel.
Non, alors effectivement, il y a un mauvais alignement des planètes pour Éric Dupond-Moretti. Est-ce que de là à dire qu'il devient le boulet du gouvernement et du président de la République, moi je ne le crois pas non plus. Je comme Bruno, je pense que en fait, effectivement, il est dans une mauvaise phase, mais cette histoire, je ne pense pas que cette histoire puisse lui porter vraiment préjudice. Il peut être mis en examen, tout à fait, mais je ne suis pas sûr que s'il était mis en examen, on lui demanderait de quitter le gouvernement. Ça pourrait être une exception.
Il y avait une jurisprudence à une époque.
Alors, c'est une jurisprudence, mais c'est une règle absolument non écrite.
Elle a évolué. À une époque, c'était garde à vue.
C'est ça, en fait, elle a géométrie
ensuite,
variable.
C'était mise en examen, on part du gouvernement. Et maintenant, vous dites, ça ne pourrait pas être le cas pour Éric Dupond-Moretti.
Moi, je crois que dans ce cas d'espèce, non. Là, pour le coup, il pourrait faire une exception en considérant qu'en réalité, le garde des Sceaux a d'abord suivi les conseils de son administration, c'est la défense qui met en avant. Et ce qui lui est reproché, finalement, c'est que compte tenu du fait qu'il était impliqué dans l'affaire, il n'aurait pas dû... il n'aurait pas dû suivre, ou alors il aurait dû se mettre en retrait, ce qu'il a fait, mais pas assez vite. Oui. Enfin, on n'est pas dans un degré de gravité tel, si vous voulez, que je pense qu'il lui demanderait de quitter.
Public, ça compliqué, fait tâche, quand même.
Non, mais, alors, c'est compliqué, parce que cette affaire aussi est quand même très compliquée.
En trois mots, Éric Dupond-Moretti soupçonné d'avoir usé de sa fonction de ministre pour régler des conflits datant de l'époque où il était avocat, notamment vis-à-vis du parquet national financier, qui, lorsqu'il enquêtait sur Nicolas Sarkozy, c'est un peu compliqué, mais ouais, c'est ainsi, c'est et Thierry Herzog, dans l'affaire Paul Bismuth, avait fait saisir ses relevés téléphoniques. Éric Dupond-Moretti avait alors à l'époque qualifié ses méthodes de barbouze et avait déposé plainte. Ça peut être un handicap quand même, un ministre de la justice mis en examen.
Je suis plus réservé par rapport à ce qui vient d'être dit. Je crois quand même qu'une mise en examen, c'est difficile aujourd'hui dans une affaire concernant un ministre très exposé. C'est déjà arrivé, Stéphane, que des ministres mis en examen, notamment pour des affaires de diffamation, soient finalement exonérés de cette fameuse règle du ministre mis en examen démissionne. Là, quand même, c'est compliqué. Bon, l'affaire est compliquée. Elle met en jeu tellement des personnalités par ailleurs, à forte sensibilité ou politique, que ce serait quand même complexe pour le président de la République de résister à la pression de le garder.
Bon, on n'en est pas là. Marion Mourgue.
Ce serait symboliquement compliqué parce qu'Éric Dupond-Moretti, depuis des mois, a pris en grippe Marine Le Pen et a installé une sorte de match avec elle. Donc, s'il lui arrive quelque chose judiciairement, on voit très bien la présidente du Rassemblement national monter au front en disant « Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Emmanuel Macron? Pourquoi vous ne démissionnez pas votre ministre alors que vous-même, vous avez prôné la transparence, l'action publique et la moralité. »
Bien, vous me faites une transition toute trouvée parce qu'on va marquer une pause 18h38 et on va justement parler de Emmanuel Macron et de son duel face à Marine Le Pen et visiblement le président de la République prend l'ascendant. À tout de suite. La suite des grandes voix du jeudi avec toujours Bruno Jeudy de Paris Match, Stéphane Vernet d'Ouest France à Paris et Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro. Alors je le disais, l'écart se creuse entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est C'est ce que laisse apparaître un sondage Elab qui donne le chef de l'État sortant largement réélu au second tour avec 60% des suffrages. Il prendrait le large dès le premier tour, distançant la présidente du RN de plusieurs points, 29 à 31% contre 23 à 25% selon les estimations. Marion Moore, que s'est-il passé en l'espace de 2 mois? On annonçait une vague RN, on ne parlait que du dynamisme de Marine Le Pen, le centre d'attraction du débat public était autour de ses propositions, et puis aujourd'hui, c'est le président de la République qui reprend l'ascendant, mais alors nettement.
Eh bien, entre-temps, il y a eu 2 défaites, celle au régional et celle au départemental. À partir du moment où Marine Le Pen n'a pas réussi à gagner de région ou de département, ou n'a pas réussi à engranger des élus, même ceux qui votent pour elle se sont dit, finalement, il y a toujours ce plafond de verre.
Oui.
Et voter RN parce qu'on veut exprimer une colère, finalement, ne serait plus utile, puisque de toute façon, c'est voué à rester dans l'opposition. Donc c'est aussi ça qui s'est joué.
Ça, c'est l'élément factuel de ce qui s'est déroulé, mais il y a quand même un fait marquant là-dedans, les erreurs des sondages. Les erreurs des sondages qui prédisaient une vague Rassemblement National, alors qu'avait pas pris en compte, c'est vrai, le record de l'abstention.
Et à partir du moment où on n'a pas l'abstention, c'est compliqué aussi de savoir après qui vient voter ou pas.
L'erreur, elle est dans la difficulté à mesurer l'abstention. Ça n'excuse pas les sondeurs, mais ils ont fait tous leurs sondages sur une base à peu près de 40 à 42% de participation. Or, au premier tour, nous étions en dessous de 35. Pour
c'était
être
la moitié de
à
ce
peine 36.
Prévu.
Donc du coup, ça fait quand même une très grande différence et ça influe. Mais globalement, vous avez raison, ils se sont plantés, ils ont surestimé le RN, ils ont surestimé même un peu moins, mais aussi les listes LREM, et ils ont aussi surestimé les écologistes. Et inversement, ils ont quand même minoré les LR et les socialistes, et du coup, ça change beaucoup de choses.
Oui. Mais ça change considérablement, parce qu'on reprend le même sondage pour la même présidentielle il y a 3 mois. Souvenez-vous, ils étaient au touche-à-touche.
Oui, mais d'abord, Julien, je vais vous dire, commençons déjà par être prudents, parce que nous, la présidentielle, c'est dans 10 mois.
C'est dans 10 mois.
Mais moi, que les sondages ne prédisent
j'ai
pas, ils enregistrent
cheveux,
un
j'ai
moment.
J'ai pas mal de cheveux gris, j'en ai même un peu plus que Stéphane. Je ne veux pas vous refaire la chronique de toutes les présidentielles où quasiment 10 à 1 an avant, c'était jamais le premier qui a gagné.
Vous savez comme moi que dans les sondages, ce qui est important, ce sont les dynamiques. Oui, et là, visiblement, il y a une dynamique engagée pour le président de la République.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron est le favori, c'est tout ce qu'on peut dire. Et il était même, j'allais dire, avant les régionales, parce qu'il reste quand même à des niveaux assez élevés pour une fin de mandat.
Alors, Stéphane Vernet, est-ce que vous diriez que c'est une bonne dynamique enclenchée parce qu'on est sorti du confinement, parce que le climat est optimiste et profite au président de la République, ou à l'inverse, c'est un affaissement du Rassemblement National et finalement une mise en lumière aussi des dissensions que suscite Marine Le Pen au sein même du parti sur la ligne à adopter?
Non, alors, moi je pense que c'est surtout un affaissement du Front National et que vous parliez de dynamique et vous l'avez très bien dit. En fait, il y a eu effectivement une grosse défaite du Rassemblement National à ces élections. Mais la République En Marche aussi a pris une déculottée. En fait, les deux grands perdants de ces élections départementales et régionales, ce sont les leaders, les deux favoris pour la présidentielle de l'année prochaine, ce qui pose quand même question. Moi, je pense qu'effectivement, vous aviez une grosse dynamique autour des sondages qui nous promettait une vague Rassemblement National pour ces élections, etc., qui n'a pas eu lieu. Et je pense que là, on est dans le contre-coup de ça. C'est-à-dire que les gens, finalement, réalisent que la balle n'est pas forcément dans le camp du Rassemblement National, que ce n'est pas joué, que ce n'est pas aussi simple. Et je pense que ça influe beaucoup sur le résultat du sondage qu'on est en train de commenter, mais ils vont encore évoluer les sondages. Et puis, l'autre aspect des choses, c'est que vous avez aussi un recul des candidats de la droite, et il y a un problème, parce qu'en réalité, ce qui ressort de ces élections, c'est que l'alternance, si alternance il y a possible l'année prochaine, elle n'est pas à gauche, elle est à droite, aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Or, pour qu'il y ait un candidat qui se dégage enfin à droite, il faudrait qu'il y en ait un qui arrive à passer durablement la barre des 20% d'intention de vote au premier tour.
Pour l'instant, c'est plutôt Xavier Bertrand qui se détache.
Ah bah non, mais lui aussi est en recul.
Oui,
entre 18 et 20, rien n'est réglé.
À partir du moment où justement le Rassemblement National baisse et baisse dans la dynamique, la droite a une chance. Alors, si elle arrive à s'entendre, si elle arrive à faire taire les divisions et les égos, elle a une chance aussi de se hisser dans ce dernier duel face à Emmanuel Macron. Donc, c'est ça qui peut se jouer dans la campagne qui s'annonce.
Est-ce que vous diriez que le Rassemblement National est en crise? On a vu, alors ça vaut ce que ça vaut,
Jean-Marie Le Pen.
En tout cas, il est en doute.
La parole et dire que le Front National, le Rassemblement National, c'est un lapsus, n'est pas assez viril. On sent des dissensions au sein du parti
enfin,
également.
Jean-Marie Le Pen, il y a encore quelques semaines, disait que Marine Le Pen se dirigeait très bien, en tout cas annonçait une belle campagne. Donc il y a aussi il y a des doutes. Ouais.
Il y a la menace Éric Zemmour aussi qui fait craindre un grignotage des voix au Rassemblement National de la part de Marine Le Pen.
Ce qui est certain, c'est qu'on va y avoir un congrès gueule de bois pour le Rassemblement National.
Qu'est-ce que week-end
Marine Le Pen a sans doute tué la peau de l'ours un peu trop vite. Elle se voyait avec un top. Elle disait, elle parlait elle-même d'un top 3 de régions gagnables. Le résultat des courses, c'est un top 0. C'est vrai qu'il y a l'hypothèse Éric Zemmour qui se précise et j'ai l'impression qu'il est tout à fait capable de franchir le pas. Est-ce que. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen et en même temps, c'est pas si certain que ça. Il y a une seule étude qui montre que Éric Zemmour prendrait d'abord un peu plus aux Républicains et surtout à Dupont-Aignan, un peu moins Marine Le Pen. C'est quand même une mauvaise nouvelle aussi, aussi pour elle si ça va jusqu'au bout. Après Éric Zemmour, moi, j'ai une autre lecture sur Éric Zemmour. Moi, je pense que ça fait partie de ces candidats qui font le tour de chauffe de la présidentielle.
Oui.
Tout le monde les voit très beaux. C'est le candidat purement médiatique.
Oui.
Il parle de la France, il fait un meeting tous les soirs dans une chaîne de télévision devant 800 000 Français. Et c'est pas parce que vous récitez les noms des rois que vous parlez aux Français. Il parle pas aux Français.
Oui.
Voilà, bon, c'est un moment de distraction. On verra si ça va très loin par ailleurs. Mais pour Marine Le Pen, tout ça n'est pas... Il y a un gros nuage qui s'installe au-dessus du Rassemblement National.
Alors, on va parler justement d'Emmanuel Macron qui a donné une interview à Elle. On va marquer une pause, 18h46. On se retrouve avec nos débatteurs dans quelques secondes. Une interview qui fait pas mal parler aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi, tout de suite. Et on poursuit le débat des grandes voix du jeudi avec Emmanuel Macron qui a donc donné cette interview fleuve dans le magazine Elle à l'occasion du forum Génération Égalité. Initialement axé sur l'égalité et le droit des femmes, le président de la République en a profité pour glisser des messages sur la logique intersectionnelle qui fracture tout, la société qu'il sent se radicaliser, a-t-il dit, ou encore son attachement à l'universalisme. Ils sont importants, ces mots du président de la République, Marion Mourgue ?
Lesquels ? Ceux où il parle de la France qui se racialise ?
Oui.
Ils sont importants parce qu'ils sont assez justes et c'est vrai que c'est une préoccupation qui monte, on le sent, parmi les élus. La seule question, c'est quels sont... vraiment les propos d'Emmanuel Macron, parce que dans une situation, il dit ça, et puis X mois avant, il va dénoncer le privilège blanc, ou il va dire qu'il faut déconstruire l'histoire. Donc, on a un discours qui est assez fluctuant sur ces thématiques, et donc on a du mal à savoir ce que pense vraiment Emmanuel Macron.
Oui, vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Vernet. Il y a une espèce de changement de discours du président de la République selon le public auquel il parle.
Ah oui, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il a l'habitude, il aime bien surprendre, donc il choisit des supports très différents et il essaye d'avoir un discours souvent qui corresponde aux médias qu'il utilise ou qu'il teste, mais ce qui peut l'amener effectivement à avoir des expressions parfois contradictoires. Il est difficile à suivre. Il a multiplié les supports, donc je ne vais pas vous refaire l'histoire de la vidéo de McFly et Carlito, mais oui. Un coup il parle à Valeur Actuelle, un coup il est dans Elle... un coup, il est dans la presse quotidienne régionale.
Le support, j'ai envie de dire, peu importe. C'est
la
normal qu'il aille chercher son
pas
public.
Tout à fait la même chose. Oui, que mais la voilà,
ce qui est important, c'est le message.
Oui, mais c'est-à-dire que lui-même, il organise sa communication comme si on était dans un monde où en fait chacun était dans sa bulle.
Voire dans sa communauté, Stéphane.
Dans sa communauté, voilà, exactement. Et en faisant comme si finalement d'une communauté à l'autre, on n'écoutait pas et on comparait pas les choses. Et parfois. Ça ajoute beaucoup de confusion, alors que sur ces sujets, effectivement, il y a des choses fondamentales à dire.
On a longtemps reproché aussi au chef de l'État, notamment, souvenez-vous, contre Valls, lorsqu'il était ministre de l'économie, d'avoir une vision de la société très anglo-saxonne, c'est-à-dire une vision de la société communautarisée, où l'économie permettrait en somme de résoudre les problèmes identitaires. C'est toujours ce qu'il pense, Bruno Joly, au fond ?
Ben, je ne sais plus, moi. Je vais vous dire un truc, j'aimerais bien qu'Emmanuel Macron stabilise sa pensée sur un certain nombre de choses. Ce qu'il dit dans Elle, sur l'universalisme, eh bien, tant mieux si c'est son évolution et si ce discours-là est celui qu'il tient dans tous les médias, à tous les publics, jusqu'à la présidentielle. Il a le droit d'avoir changé, il y a beaucoup de questions, il a changé, voire même à 180 degrés. On a eu quelques mois avant le projet de loi sur le séparatisme, Emmanuel Macron avait fait un discours aux Mureaux, qui était quand même assez éloigné de ce qu'il pouvait dire et pendant la campagne et même au début du mandat. Donc il y a beaucoup de questions comme ça où même Macron finalement peut-être que le pouvoir lui a permis de découvrir un certain nombre de choses et de stabiliser sa pensée, tant mieux. Moi je suis assez d'accord avec Stéphane, c'est une communication en silo. Il ne dit pas la même chose à la presse américaine quand justement il aborde certains problèmes que lorsqu'il parle avec des médias, par exemple comme le Figaro où il a donné une grande interview sur la sécurité. Il ne dit pas la même chose. Donc on ne sait pas toujours et moi je suis d'accord avec Stéphane, on aimerait bien qu'il y ait une espèce de quelque chose de plus lisible. Mais c'est aussi sa personnalité. Sa personnalité, le en même temps, ce n'est pas une... C'est pas une figure de communication chez Emmanuel Macron, c'est sa complexité à ce président, et c'est aussi ce qui a fait son succès en 2017. Peut-être qu'en 2022, avec le pouvoir, il sera peut-être obligé de clarifier beaucoup plus les choses, parce que d'abord, les Français le connaîtront plus, il y aura un bilan, et donc ça l'obligera peut-être à sortir de ces zones grises qu'il a entretenues avec parfois succès, parfois en nous agaçant, mais peu importe, c'est comme ça.
On se souvient aussi de la petite phrase, par exemple, qu'il avait eue à propos de sa relation avec Jean-Louis Borloo quand ils échangeaient sur le plan sur les banlieues. Vous vous en souvenez, en 2018, il avait parlé de deux mâles blancs, sous-entendu, Jean-Louis Borloo et lui-même. Alors, on peut le critiquer, mais sur le fond, il a raison.
Sur cette idée de privilège de l'homme blanc ?
Non, pas de privilège. De deux hommes blancs de plus de 50 ans, c'est ce qu'il avait laissé entendre, qui réfléchissent au plan banlieue, qu'ils ne connaissent pas dans leur chair et qu'ils n'ont jamais vécu.
Mais est-ce qu'il faut jeter le plan derrière ?
Et ce qui avait été un peu bizarre, c'est que c'est lui-même qui avait commandé le plan et qui avait demandé à Jean-Louis Borloo d'y réfléchir. Donc c'est aussi ça qui avait gêné dans l'expression d'Emmanuel Macron.
Donc vous dites, sur ce point, il n'est pas clair ?
Bah, sur ce point, il ne cesse d'évoluer en permanence et en effet, on a toujours l'impression qu'il s'adresse à des niches électorales qui cherchent soit à fracturer à un moment la gauche, soit à fracturer la droite. Et le « en même temps » qui a séduit les Français en 2017 peut être une faiblesse d'Emmanuel Macron en 2022 parce qu'en effet, comme le disait Bruno,
on
il y a un bilan, mais il y a aussi les déclarations qui lui reviendront. On lui dira « mais si vous dites ça aujourd'hui, pourquoi aviez-vous dit ça ?» Il y a X mois.
Parce qu'il est beaucoup reproché aussi sur ces sujets sensibles de cliver une vision un peu manichéenne. Le en même temps, sur ces sujets-là, il est impossible aujourd'hui dans le débat public pour un président de la République ?
Bah, en tout cas, il faut avoir une synthèse claire et équilibrée.
Oui. C'est ce qui lui manque.
Bah, c'est-à-dire que je rebondis sur ce que disait Bruno à l'instant. C'est aussi une question de personnalité. Et je vais reprendre un propos qui a été utilisé par. Un terme qui a été utilisé par Marion Mourgue. Il y a un côté séduction, c'est-à-dire que cette volonté de séduire fait que finalement, on a aussi... Je pense que c'est malheureusement, j'ai l'impression que c'est lié aussi à un trait de sa personnalité, c'est-à-dire qu'il cherche à dire à son interlocuteur ce que son interlocuteur a envie d'entendre. Et ça, vous pouvez le faire en tête-à-tête dans une conversation, mais dans une communication générale organisée, ça ne marche pas, ou ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'à partir du moment où vous en venez à prendre des positions contradictoires d'un support à l'autre, enfin, je veux dire, quand vous avez une vision d'ensemble, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Or, on a besoin de clarté et on a besoin aussi d'un président ou d'un futur président, d'un candidat à la présidentielle qui soit clair sur ses positions, parce qu'il y a les mots et les actes.
Je vais vous demander à tous les trois, en esprit de synthèse, justement, il nous reste une minute. C'est la dernière de la saison, en tout cas pour moi, votre coup de griffe ou votre coup de cœur de cette saison. Bruno, je dis.
C'est
un coup de cœur, coup de chapeau à tous les soignants qui ont continué ces derniers mois à la fois à soigner ceux qui étaient atteints de coronavirus et puis aussi à vacciner tous les Français. Donc voilà, un coup de cœur pour se souvenir de tout ce qu'ils ont fait.
Ouais, moi c'est un coup de cœur un peu tarte à la crème, mais moi j'ai une pensée pour les jeunes en fait. Hein. Oui. C'est un mot valise, mais je trouve qu'ils ont quand même bien mangé pendant la crise. On les a accusés de pas être toujours très exemplaires, mais je trouve qu'ils ont été très solidaires et ils se sont pas tous marrés. Moi j'ai des gamins qui ont l'âge de faire la fête et de se marrer. Ils ont passé plus de temps dans leur chambre à attendre que ça passe.
Ils ont retrouvé la bamboche depuis.
Ouais, Stéphane mais Gardet. Bon, voilà, ça a quand même été une année dure et je trouve que c'est bien.
Coup de chapeau à la résilience des jeunes. Bruno, je dis.
Moi, je vais faire un coup de griffe, faire un peu dans le politiquement pas très correct. mon coup de griffe, c'est contre tous ceux qui critiquent les forces de l'ordre, les policiers. Je trouve que cette année, c'est vraiment une année... Alors, je ne sais pas, peut-être que je les commande plus qu'il y a quelques années. Je trouve que cette année, c'était quand même très, très, très lassant d'entendre tout ça. Je veux dire, ils ont vraiment beaucoup morflé, quoi. Avignon, je ne vais pas énumérer toutes les villes. Je trouve qu'ils prennent beaucoup. Je fais beaucoup les plateaux de télévision par mon activité du soir. Et j'en entends trop qui critiquent, quoi. Voilà, je trouve que c'est quand même un métier difficile. C'est des gens qui gagnent, franchement, pas leur vie difficilement et qui font un métier dangereux. Oui. Quand j'entends les gens critiquer, quand j'entends certaines manifestations contre... On a monté en épingle les violences policières. On a monté en épingle les violences policières. Il y en a des violences policières.
Vous auriez pu l'inverser, vous auriez pu dire coup de cœur aux forces de l'ordre.
Mais coup de griffe pour ceux qui critiquent.
Et coup de griffe pour ceux qui critiquent. Voilà, la boucle est bouclée. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés cette dernière des grandes voix du jeudi. C'était un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour débattre de l'actualité.
Merci Julien.
Merci beaucoup.
Europe 1. Julien Bugier.
18h57, vous restez avec nous dans quelques secondes le journal et puis le débat du Club des Idées. Ce soir, on parlera du nouveau rôle des pères. À tout de suite.